on ne veut pas pousser à donner au-delà de ce que les gens peuvent. Et puis aussi, des fois, on se met simplement au diapason de la société. La société ne parle pas d'argent, on n'en parle pas non plus. Et puis quand on y réfléchit un petit peu, c'est un petit peu ridicule de ne pas parler d'argent, n'est-ce pas? Non, tout le monde se trouve normal de ne pas parler d'argent. Parler de Dieu à l'église, c'est normal, tout va bien, mais parler d'argent... Combien de fois avez-vous sorti votre porte-monnaie cette semaine? Ouf, ouf, pas mal de fois, souvent, peut-être trop souvent à votre goût. Combien de fois avez-vous sorti votre Bible cette semaine? Tous les jours. Combien de fois avez-vous prié? Vous avez sorti votre Bible, j'imagine, aussi tous les jours. Mais on n'a pas besoin d'aller plus loin pour voir que l'argent fait partie de notre quotidien, qu'on le veuille ou non. Et même des fois, j'espère que ce n'est pas le cas, mais soyons réalistes, l'argent fait peut-être même plus partie de notre quotidien que Dieu. Et la prédication dans le culte, c'est un temps particulier. C'est le moment où on se met à l'écoute de Dieu d'une manière toute particulière. Ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas pendant les autres temps du culte. Mais pendant le culte, pendant notre semaine, la prédication, c'est un moment particulier où on se met à l'écoute de sa parole. Et c'est pour cela que, pendant les prédications, le rôle du prédicateur, c'est de proclamer la parole de Dieu, c'est de se baser sur la Bible, dans ce qu'il va dire. Et si vous avez sorti votre Bible cette semaine et que vous l'avez lue attentivement, certainement que vous avez trouvé un texte qui parlait de l'argent. Parce que la Bible n'est pas comme nous, elle parle beaucoup d'argent. Et le message principal qu'elle donne par rapport à l'argent, c'est que Dieu est suffisant et que généralement, l'homme s'attache beaucoup trop à l'argent. Dimanche dernier, nous avons déjà abordé la question des biens temporels, de l'argent, et nous allons continuer dans la même ligne que dimanche dernier. N'hésitez pas à aller écouter le message sur le site internet si vous n'étiez pas là dimanche dernier, parce que c'est vraiment dans la continuité. Mais si vous n'avez pas entendu ce qui a été partagé dimanche dernier, n'ayez pas peur, vous allez quand même comprendre de quoi je vais parler ce matin. Et je vais même faire un petit résumé de ce qui a été dit la semaine dernière. « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. » Nous trouvons ce verset en Job, chapitre 1, verset 21. Nous sommes venus sans rien sur terre, et quand on va mourir, on emportera rien avec nous. Les biens matériels sont donc secondaires, et c'est un constat que font toutes les religions. D'ailleurs, la grande majorité des religions insistent sur ce qui se passe après la mort. Et ce qui se passe après la mort, c'est ce qui devrait nous motiver dans notre manière d'agir aujourd'hui. La Bible souligne cela également. Mais elle dit quelque chose de plus. Elle dit que Christ est venu faire une différence fondamentale. Christ est venu donner un avant-goût de ce qu'on va pouvoir vivre après la mort. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être mort pour découvrir Dieu, mais on peut déjà le rencontrer aujourd'hui. En Éphésiens 1, verset 3, il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » En Jésus, nous avons reçu toutes les bénédictions spirituelles. Par sa mort, par son sang versé sur la croix, il nous a réconciliés avec le Père, il nous a réconciliés avec Dieu, il nous a rendus héritiers de Dieu. Et aujourd'hui, par la puissance de son esprit, nous pouvons déjà goûter à ses bénédictions. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être mort pour avoir une relation avec Dieu. Aujourd'hui déjà, en Jésus-Christ, nous pouvons avoir une relation et Dieu nous comblera de ses biens spirituels. Est-ce que vous êtes déjà allé au Buckingham Palace? Non, il n'y a personne qui est allé au Buckingham Palace. Pas à l'intérieur, mais de l'extérieur. C'est bien. Sinon, vous l'avez tous vu, j'imagine, dans un reportage ou en photo. Et quand on arrive au Buckingham Palace, il y a une immense un immense portail, une immense porte avec des magnifiques décorations. Il y a des ornements dorés, je ne sais pas si j'ai pas réussi à savoir si c'était de l'or ou pas, mais on peut imaginer qu'il y a de la peinture avec de l'or dessus. Et puis derrière, on voit le palais avec aussi une magnifique porte. Et quand on y réfléchit, dans tous les lieux importants, il y a toujours une magnifique porte d'entrée, parfois majestueuse, parfois richement décorée. La porte qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu est radicalement différente. C'est une toute petite porte qui a l'air de rien. C'est une porte étroite. On peut entrer seulement un par un. C'est une porte presque repoussante. Elle a la forme d'une croix. Elle a la forme d'un homme qui a été mis à mort pour porter notre péché, qui a été mis à mort de la plus abjecte des manières, qui a été mis à mort sur une croix. Et il l'a fait pour porter notre péché, pour porter tout ce qui nous empêchait de nous approcher de Dieu. Et le seul moyen d'entrer dans cette porte, elle est tellement étroite que c'est de laisser tout ce qu'on a. C'est de laisser notre sac à dos, c'est de laisser tout ce qu'on a derrière pour entrer dans la porte qui mène au royaume de Dieu. Contrairement au grand roi, on ne peut pas prendre plein de cadeaux avec pour dire au grand roi « mais j'ai mérité de venir te voir ». Vous savez, quand on va voir quelqu'un d'important, on lui apporte un magnifique présent. Puis là, avec Dieu, on ne peut pas. On est tous à égalité, on est tous obligés de laisser tout ce que nous avons pour nous approcher de Dieu. Parce que la porte est trop étroite pour prendre quelque chose avec nous. Mais si tu fais le choix de placer ta confiance en Dieu, de franchir cette porte qui a l'air misérable, eh bien Dieu t'attend de l'autre côté et te comblera de toute bénédiction spirituelle. Il enverra son esprit pour que ton cœur soit saisi d'une ferme assurance, pour que ta vie soit guidée par la confiance, pour que la paix t'habite dans le plus profond de tes tripes. Il vient nous faire découvrir ce qu'est la vraie vie. Et vient nous faire découvrir cela avant que la mort nous empêche de découvrir la vraie vie. Cette vie qu'il est venu nous donner, la mort ne pourra pas nous l'enlever. Christ, après avoir été cloué sur la croix, après avoir soufflé son dernier souffle, après avoir été enterré, après avoir passé 3 jours dans les tréfonds de la terre, Christ, par la puissance de l'Esprit, a été déclaré Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. La mort n'a pas pu retenir Jésus. La mort a été vaincue. Lorsque nous franchissons cette porte étroite, la mort n'a plus de pouvoir sur nous, car Dieu nous relèvera comme il a relevé Christ. Parfois, on imagine que, puisqu'on a reçu toutes les bénédictions spirituelles, puisque nous avons cette vie qui vaut plus que tout en nous, alors le chrétien doit complètement se détacher de tous ses biens matériels et vivre dans la plus grande simplicité. Vous avez peut-être déjà connu des gens comme ça, rencontré des gens qui prônaient la pauvreté en tant que chrétien. Et il me semble qu'il y a 2 problèmes avec cette réflexion. Le premier, c'est d'oublier que nous sommes témoins d'un grand roi et que cela peut pousser Dieu à nous donner des bénédictions particulières pour pouvoir témoigner de qui il est. Et cela passe parfois par des biens matériels en abondance. Le deuxième problème, c'est d'oublier de tous les grands hommes de Dieu qui ont été quand même relativement riches. Joseph, vous connaissez peut-être l'histoire de Joseph, il a été vendu par ses frères comme esclave, il a été mis en prison, il était au plus bas de la société en Égypte. Puis Dieu est venu le chercher dans sa prison et l'a fait asseoir à la droite du pharaon, à la droite du plus grand roi de son époque, et il avait tout pouvoir dans le pays. Il est devenu immensément riche. On peut penser à David, un simple berger, le dernier de la famille, un peu méprisé par son père. Dieu est venu le chercher derrière ses moutons pour le faire devenir le plus grand roi d'Israël, ou en tout cas un des plus grands rois d'Israël. Jean, un simple pêcheur, est devenu un des hommes les plus connus de l'histoire après avoir accepté de suivre Jésus-Christ. Et quand on pense à ces exemples, des fois on a l'idée inverse. Le chrétien n'est pas appelé à être pauvre, mais qu'il est appelé à être riche. Puisque Dieu possède tout, eh bien, il est normal que nous, ses enfants, on ait un avant-goût de notre héritage et que nous devenions riches. Notre statut de fils de Dieu, de co-héritier du Christ, se manifeste par une bénédiction matérielle particulière. Et là, de nouveau, il y a plusieurs problèmes avec cette réflexion. Le premier, c'est d'oublier que Christ s'est dépouillé de tout. Il avait toutes les richesses et il a accepté de tout quitter pour mourir sur la croix. Sa vie a été un échec. Il est mort sans rien. Il était fui par ses amis. Il était cloué sur une croix. C'était un échec en apparence, parce que nous le savons bien, il avait fait ce choix-là pour obtenir la plus belle des récompenses, être assis à la droite de Dieu le Père. Deuxième problème, c'est que Dieu se plaît à utiliser notre faiblesse pour manifester sa puissance. Moïse, fils de Pharaon, fils adoptif de Pharaon, a dû fuir dans le désert, devenir berger, pour ensuite retourner en Égypte, faire sortir le peuple de Dieu de l'esclavage. Élie, qui était un grand prophète de Dieu, a refusé des cadeaux de la part de Naaman. Il était prophète de Dieu, il avait une grande réputation, un roi étranger, un prince étranger, il était général, je crois, entend parler de lui, il était malade, et vient le voir pour être guéri. Élie lui donne une parole de connaissance de la part de Dieu. Ce grand général est guéri, forcément, il veut remercier Élie. Élie dit non, je ne prendrai rien. Paul, qui était un témoin de Christ, a fini sa vie en prison. Donc on voit que ni la pauvreté ni la richesse ne sont un signe que nous sommes véritablement enfants de Dieu. J'aimerais lire quelques versets en Hébreux 11. C'est en Hébreux 11, versets 1 à 3, 8, 10 et 13 et 14. En fait, j'ai juste pris quelques versets dans Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, a obéi et est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Là, le texte énumère d'autres héros de la foi, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La gestion de nos biens matériels devrait manifester nos possessions spirituelles. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Gérer nos biens matériels avec foi, c'est les gérer de manière à manifester notre confiance en Dieu. La gestion de nos biens matériels doit manifester la possession de nos biens spirituels. Et ce n'est pas l'inverse. Ce ne sont pas nos biens spirituels qui doivent manifester nos biens matériels. Ce n'est pas parce qu'on a de grandes richesses qu'on a de grandes richesses sur terre que ça montre qu'on a de grandes richesses dans les cieux. On aimerait bien que ce soit l'inverse, parfois. Que ce soit nos biens matériels qui témoignent de nos biens spirituels. Mais c'est l'inverse. Et ça a des implications toutes concrètes dans nos vies. Ça nous demande d'être prêts à tout quitter. Abraham a tout quitté pour suivre l'appel de Dieu. Jésus a tout quitté pour venir nous sauver. Sommes-nous prêts à faire de même, à tout quitter pour être avec Dieu? Tout quitter pour suivre Jésus et partir comme ça et tout laisser derrière, ce n'est pas une vocation universelle, mais un appel à adresser à certaines personnes particulières. Par contre, l'appel qui est universel, c'est la disponibilité de cœur à être prêt à tout quitter. Le moment où Dieu nous dit, maintenant, tu prends ton sac à dos et tu pars, ou tu ne prends pas ton sac à dos mais tu pars quand même, on doit tous, dans notre cœur, être prêts à faire ce choix-là. Est-ce que c'est un appel de Dieu? Comme l'a dit Jésus en Matthieu 6, on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Ou on aimera l'un, on haïra le second. Ou alors, on aimera le second et on haïra Dieu. Et dans la suite, je vais parler un peu plus d'argent. Mais bien sûr, vous pouvez étendre ça à tous vos autres biens. L'autre chose que Jésus est venu faire, c'est qu'il est venu nous sauver, qu'il est venu nous sauver aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça commence. C'est pas demain. Et s'il y a quelque chose que tu peux faire aujourd'hui pour manifester ta foi en Dieu, alors fais-le, n'attends pas. Des fois, on se dit, mais demain, je donnerai. Mais n'attends pas. La foi, ce n'est pas juste un vœu pieux. Ce n'est pas juste dire, oui, je suis prêt à le faire. Et quand on a l'occasion de le faire, de ne pas le faire. La foi, c'est se mettre en action. Non pas pour être transformé par notre action, mais parce que nous avons déjà été transformés par Dieu. Dieu est venu nous transformer pour que nous puissions donner avec confiance, pour que nous puissions nous mettre en route avec confiance. Comment vas-tu utiliser ce que Dieu t'a donné pour témoigner à ceux qui t'entourent que tu places ta confiance en Christ? Jésus nous a sauvés gratuitement. Et ça devrait nous interpeller dans la gestion que nous avons de nos biens. Ça devrait nous pousser à faire la place au don, à nous souvenir du pauvre, du faible, de celui qui est dans le besoin. Bien sûr, il est question d'argent, parce que notre gestion de l'argent est symptomatique de notre gestion des biens matériels. Mais ça ne concerne pas que l'argent. Tu vois un frère, une sœur qui a besoin d'une voiture demain, et tu n'en as pas l'utilité de la tienne, pourquoi ne pas la lui prêter? Tu as une chambre de libre chez toi? N'est-ce pas l'occasion d'exercer l'hospitalité? Mais attention, parce que si vous commencez à faire ça, vous prenez un sérieux risque. Il y a quelque temps, j'ai prêté deux livres à quelqu'un. Et je lui dis, tiens, celui-ci, c'est pas grave si tu le perds, mais celui-ci, j'aimerais bien le récupérer parce qu'il n'est plus édité. Et puis que c'est un livre que j'aimerais encore pouvoir consulter. Et puis, quelques temps plus tard, cette personne à qui j'ai prêté les livres vient vers moi tout gêné. J'ai oublié ton livre dans le train. Mais lorsqu'on prête quelque chose à quelqu'un, on prend un risque. Si vous prêtez votre voiture à quelqu'un, vous prenez un risque. Si vous prêtez votre maison à quelqu'un. Alors là, dans l'histoire que je vous ai racontée, l'histoire s'est bien terminée. Parce qu'il a pu le recommander quelque part sur Internet, donc j'ai récupéré mon livre. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dès qu'on prête à quelqu'un, dès qu'on donne, on ne sait pas ce qu'il adviendra. Il y a un réel risque à prendre avec à prendre en donnant, en étant généreux. Dieu est généreux avec nous, soyons généreux avec les autres. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que nous avons qui définit qui nous sommes. Mais c'est qui nous sommes qui définit ce que nous avons. Imaginez une société où on accueille les gens, non pas pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils sont. Et peut-être avant d'imaginer toute la société, on peut commencer par l'Église. Je ne m'intéresse pas à toi parce que tu as de l'argent, un réseau et qu'en m'approchant de toi, je pourrais obtenir certains avantages. Mais je m'intéresse à toi pour qui tu es. On ne va pas fermer les yeux sur le comportement de certaines personnes, sur une personne en particulier, parce que si on dit quelque chose, on risque de froisser les 15 personnes avec qui il est ami. Mais on accueille le pauvre de la même manière que celui qui est riche, la personne influente de la même manière que la personne qui est simple. On invite, non pas dans l'espoir d'être invité en retour. On ne devient pas ami avec cette personne pour bénéficier de son réseau, mais simplement pour le connaître lui. Parce que c'est un homme ou une femme créée à l'image de Dieu. Gérer notre façon de manière à manifester l'espérance que nous avons en Christ dépasse notre petite sphère privée. Cela a également des répercussions sur notre travail. En tant que patron, le but ne sera pas de faire du bénéfice à n'en plus finir pour s'enrichir, mais de pourvoir à nos besoins de payer le salaire de nos employés. On n'essaie pas de tirer le maximum de ses employés jusqu'à les épuiser, jusqu'à ce qu'ils fassent un burn-out. Mais idem pour la personne qui est au bénéfice d'un service. On n'essaie pas de rentabiliser au maximum notre argent. On n'essaie pas d'exiger plus que ce qu'on peut exiger de la personne qu'on est en train de payer. J'ai payé, donc j'ai le droit. Mais on se rappelle que la personne qui est en face de nous, qui est en train de nous fournir un service, est une personne créée à l'image de Dieu, comme nous-mêmes. Elle a autant de valeur que moi, même si c'est, en l'occurrence, moi qui suis en train de payer pour un service. Et vous savez, tout cela aura un coût. Parce que peut-être que pour pouvoir donner, pour pouvoir aider, tu vas devoir te priver de quelque chose. Tu vas peut-être devoir te priver du dernier téléphone portable. Tu vas peut-être devoir prendre une voiture moins chère. Peut-être que tu ne partiras pas en vacances parce que tu auras donné à quelqu'un. Et c'est assez logique. Parce que si vous donnez 1000 francs gratuitement, ces 1000 francs que vous n'aurez plus dans votre porte-monnaie. C'est 1000 francs que vous ne pourrez plus utiliser et qui ne vous apporteront rien. Alors, pourquoi me priver ? Si je le fais en grinçant des dents, tiens, je te donne parce que Dieu m'a dit de donner. Puis on montre qu'on, si on ne le montre pas à la personne en face de nous, au fond de notre cœur, on se dit, j'aurais voulu faire autre chose de ça. Tiens, je te prête ma voiture parce qu'il faut bien. Puis au fond de nous-mêmes, on se dit, mais quand même, j'aurais préféré qu'elle soit parquée devant chez moi. Eh bien, alors à quel Dieu est-ce qu'on est en train de rendre témoignage ? Si on donne de cette manière-là, on est en train de rendre témoignage à un Dieu qui est inique, qui nous prend nos biens, nos possessions, pour les donner à un autre. Et j'ai envie de donner, de pouvoir donner avec le sourire. Parce que mon expérience, c'est que Dieu m'a tellement donné que j'ai envie de pouvoir le partager autour de moi. Mon espérance, c'est que Christ m'attend avec un trésor inestimable, que personne ne peut toucher. Hein, même si l'économie elle se crache, même si tout d'un coup les banquiers sont complètement plantés, hein, mon trésor, il ne bouge pas. Il n'y a rien qui l'attend. Alors, même si je n'ai pas tout ce que je veux ici et maintenant, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'ai envie de pouvoir donner avec le sourire, parce que je sais qu'il y a une richesse inestimable qui m'attend. Et donner comme ça, ce n'est pas facile. Et je dirais même que pour pouvoir donner avec le sourire, avec générosité, avec bonté, il n'y a qu'une solution. Il faut entretenir une relation personnelle avec Jésus. Parce que c'est en prenant du temps dans sa présence que Dieu nous transforme jour après jour. Et puisque c'est en Christ que se trouvent toutes les bénédictions spirituelles, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Alors c'est en lui que je vais pouvoir me ressourcer. L'esprit de sainteté qui a conduit Christ dans son ministère, qui l'a relevé d'entre les morts, sera avec vous. C'est lui qui vous donne cette assurance que Jésus est le chemin. C'est lui qui vous donne la paix. C'est lui qui, malgré tout ce que vous avez enduré, fait que vous êtes toujours enraciné en Dieu. Soyez dans la paix. Le Père connaît tous vos besoins. Il va vous accorder son esprit avec abondance. Avec une telle abondance que Dieu lui-même va vous apprendre la valeur du don gratuit. En passant du temps dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans la louange et l'adoration, dans la présence de Dieu, seul, en famille, en église, Dieu va vous envoyer son esprit pour vous transformer. Et il va vous transformer et vous allez pouvoir donner avec plaisir. Pourquoi ? Parce que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en Jésus-Christ, vous êtes ses enfants et que Dieu va vous transformer à son image. Et nous n'avons pas un Dieu inique. Nous n'avons pas un Dieu qui veut prendre nos possessions pour les donner à un autre. Nous n'avons pas non plus un Dieu qui est avare. Un Dieu qui dit, mais allez, maintenant, vous me donnez tout ce que vous avez et puis moi, je le garde pour moi. Nous avons un Dieu qui est généreux. Nous avons un Dieu qui n'a pas besoin d'argent, qui donne sans compter, qui a même donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné son propre fils pour que nous soyons réconciliés avec lui. Et c'est dans cette bonté que Dieu veut nous faire grandir. Si Dieu nous transforme à son image, c'est dans l'image de ce Dieu-là que nous allons être. Et ça change complètement notre relation à l'argent et à nos biens. Et je vous encourage, vraiment, comme la Bible le fait, à manifester votre foi, à manifester l'espérance que vous avez en Jésus-Christ avec tout ce que Dieu vous a donné. Vos qualités, vos dons, mais aussi tous vos biens matériels. Et prenez du temps pour réfléchir, moi je ne peux pas le faire à votre place, mais qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que Dieu vous demande de faire avec ce que vous avez pour manifester que Jésus-Christ est venu vous sauver, que l'Esprit a déjà fait une œuvre de transformation dans vos vies, qu'il l'a fait gratuitement, qu'il l'a fait avec bonté. Dieu, il veut qu'on donne avec le sourire. Et des fois, notre tête et notre cœur ne suivent pas. Des fois, on a envie de donner avec le sourire. Alors, enfin, un grand sourire. Et dans notre cœur, c'est l'inverse. Et si vous luttez avec ça, mais c'est parce que vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Allez vers Dieu, demandez la transformation de l'Esprit. Et il va vous faire grandir. Et moi, quand je parle de ce thème-là, je pense souvent à des personnes âgées qui ont bien moins que moi et qui donnent bien plus facilement que moi. Et je me dis, mais dans la vie chrétienne, Il y a une progression, il y a une marche. Et moi, je me réjouis de pouvoir donner ce que j'ai sans compter. Mais pour ça, j'ai besoin que l'Esprit me transforme. Allez vers Dieu. Il va vous transformer à son image. Et nous avons de tout temps un Dieu qui est généreux. Je vais prier. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu généreux, parce qu'en Jésus-Christ, tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu nous transformes à ton image. Nous avons envie de devenir comme toi. Seigneur, dans notre gestion de nos biens matériels, donne-nous de manifester l'espérance que nous avons en Christ. Donne-nous de savoir donner gratuitement à celui qui est dans le besoin. Seigneur, nous ne voulons pas faire des vieux pieux en disant « Mais oui, demain je donnerai. » Mais montre-nous aujourd'hui ce que nous pouvons faire. Seigneur, notre désir, ce n'est ni d'être pauvre, ni d'être riche, mais c'est d'être enraciné en toi, c'est d'être en connexion avec ton cœur. Seigneur, viens nous transformer parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, alors que nous parlons des finances, peut-être que l'un ou l'autre dans cette salle a des problèmes financiers. Seigneur, je te prie de le bénir et de lui donner ce dont il a besoin. Je te prie de mettre aussi sur leur route des personnes qui pourront les conseiller dans la gestion de leurs biens pour qu'ils en aient un bon usage. Seigneur, nous te prions de te souvenir des pauvres, Seigneur. Et si tu places quelqu'un sur notre chemin qui a besoin d'être aidé, montre-nous ce que nous pouvons faire pour lui. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen.